Merci beaucoup. Alors, je vais inviter les orateurs de la matinée. Alors, il y avait, pardon, Patrick Paul, Sabine, Nathalie. Voilà. Donc, la porte est ouverte. Rentrez, venez vous asseoir. Et la porte est ouverte pour vos réflexions, vos remarques, vos questions. Donc, on est parti ce matin d'un concept plus philosophique, hein, vers une mise en pratique, vraiment pratique, de l'éducation thérapeutique, en passant par la fratrie et les urgences. Alors, je vais peut-être commencer avec une question pour Sabine, quand tu as parlé de la fratrie. Par rapport, est-ce que dans l'étude que vous avez faite, est-ce qu'il est ressorti le poids de la culpabilité? Alors, culpabilité de l'enfant sain, comme on peut le voir parfois dans les accidents de voiture, hein, où il y a un enfant qui n'a rien, et donc cette culpabilité de dire « moi, j'ai pas la maladie », et la culpabilité qui est renvoyée à l'enfant malade quand l'enfant... C'est un peu compliqué, mais je vais y arriver... La culpabilité de l'enfant malade quand son frère ou sa sœur vient participer à une journée, à une réunion où il a peut-être traîné les pieds pour venir. Et donc c'est à cause de moi qu'il traîne les pieds pour aller à cette réunion.
Alors, de toute façon, oui, l'enfant qui a un diabète, il a tous les torts. Et c'est à cause de lui qu'à la maison, c'est plus pareil. C'est à cause de lui qu'on a des horaires. C'est à cause de lui que papa et maman s'occupent plus de nous, etc. Donc, de toute façon, voilà. Donc ça, c'est en effet ce qui est permis d'exprimer. C'est quelque chose qui est entendu et qu'on peut parler. La culpabilité derrière, je pense que c'est celle du fratricide, hein, c'est-à-dire le désir inconscient de voir mourir son petit frère, son grand frère, sa petite sœur, etc., pour être le seul objet d'amour de ses parents. Et je pense que, en effet, cette chose-là existe, ce concept-là existe chez l'enfant sain, comme tu dis, mais il est bien évidemment renforcé et lors de maladies chroniques comme ça, parce que c'est un prétexte, en fait, le diabète est pris en otage. C'est pour ça que c'est important de repérer les mouvements psychologiques habituels chez l'enfant et ne penser que la maladie est là uniquement pour renforcer ces mouvements psychiques-là. De façon à ne pas envahir l'identité de l'enfant par cette maladie.
Est-ce que parmi vous, certains ont l'expérience peut-être de groupes de frères et sœurs ? Il faudrait en parler ?
J'aurais une question pour les frères et sœurs. Oui, j'aurais une question pour les frères et sœurs. Concrètement, finalement, qu'est-ce qui a été mis en place suite à cette étude pour travailler avec les frères et sœurs dans l'éducation thérapeutique et les aider justement dans la famille à mettre des mots sur la maladie, à parler ensemble?
Cette étude vient juste de se terminer, donc on n'a rien mis en place, si ce n'est de continuer des groupes de parole, tout simplement, qui reste une technique purement psychologique pour l'instant.
Oui, c'est une question peut-être pour les quatre conférenciers et Claire aussi. C'est la compétence d'urgence chez le patient. Et en fait, c'est plutôt une question, qu'est-ce que ça vous évoque de vos différents points de vue sur cette compétence à mobiliser en urgence chez le patient à son domicile ou sur un lieu de vie particulier. Est-ce que c'est une nécessité, mais avec de grandes précautions? Est-ce que c'est un... l'acceptable du lâcher prise, voilà. Donc j'aimerais avoir quelques réactions à chaud croisées entre les conférenciers sur cette compétence dite d'urgence, enfin, chez les patients. Alors, on commence par Nathalie, peut-être.
Oui. Ben, je crois que on le comprend un petit peu. L'incompétence, c'est si on interroge le patient sur la compétence, d'abord, c'est qu'est-ce que c'est qu'être compétent quand on est patient. Et à chaud comme ça, je pense qu'il y a peu de patients qui vont pouvoir donner une réponse claire, objective et donner des exemples. Enfin, moi, je l'ai testé et je peux vous dire que ça laisse un « mais c'est quoi ? De quoi vous nous causez, docteur ?» Voilà, je crois que là, il y a déjà une première interrogation, c'est comment faire passer le message de devenir compétent. D'un point de vue des soignants, c'est un peu la complexité. C'est est-ce qu'un patient peut vraiment être compétent ? Ça regroupe quoi ? En pratique, c'est quoi ? Et ça fait peur, on l'a vu. Un patient qui devient compétent, c'est un patient qui va prendre lui-même ses décisions, qui va pouvoir même agir, faire des choses. Et ça, d'un point de vue des soignants, c'est pas très acceptable. On l'a vu très clairement, prendre une bombe pour faire passer sa douleur thoracique de spray, alors qu'on est nous-mêmes les prescripteurs, c'est sans doute dans l'étude que j'ai menée, c'est ce qui fait le plus peur aux soignants. De quel droit le patient il va s'auto-médiquer comme ça alors qu'on lui a rien demandé ? Est-ce qu'il est sûr que ce soit une vraie douleur thoracique ? Donc voilà la première des inquiétudes. Hier, un exemple, voilà, c'est des exemples pratiques que je vais citer puisque moi je suis une pratico-pratique. Hier, régulation, infirmière d'un établissement scolaire, docteur, est-ce que je peux donner à ce jeune patient asthmatique sa Ventoline ? Parce qu'il est en début de crise. On voit bien déjà toute la nuance sur de savoir déjà comment est perçue cette compétence des patients vis-à-vis des soignants. Donc c'est un lourd débat et un travail de définir ce que c'est que la compétence auprès des patients et de le faire accepter ensuite par les soignants.
Il y a une... Pardon.
Oui, Thomas Agnier, Association française des hémophiles. Juste peut-être pour souligner que l'une des difficultés, peut-être de départ, c'est parce que le consentement du patient n'est pas requis. Je voudrais vous parler comme que la première délégation de soins, c'est celle que donne le patient au médecin. Il n'y en a pas d'autres préexistantes. Ensuite, d'une certaine manière, c'est du pur juridique. Mais et d'ailleurs, dans votre travail d'urgence, vous réanimez. S'il y a un problème. Mais la première chose ensuite que vous devez poser comme question, c'est est-ce que vous êtes consentant pour les soins que je vous donne ? Le principe, c'est ça. Donc j'allais dire, toute la chaîne est renversée parce que, comme le disait le docteur par l'entrée, je crois qu'il y a une... On oublie le sujet, fondamentalement. Alors, c'est vrai qu'en urgence, il y a des soins à faire immédiats, techniques, qui nécessitent, mais à partir du moment où on peut recueillir le consentement, eh bien, le patient doit être immédiatement réintégré dans cette chaîne. Et ensuite, c'est tout le travail, justement, de toujours améliorer le consentement, l'information, et ensuite l'éducation du patient. Voilà, il me semble, la chaîne.
En fait, il y a une figure de style avec un grand écart entre la compétence du patient, mais qui, en situation d'urgence, n'arrive pas peut-être à mobiliser ses compétences et à maîtriser du fait de l'émotion, et le déni des soignants qui vont recevoir ce patient. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un travail en amont à faire auprès des structures peut-être d'urgence par les équipes qui travaillent justement sur ces compétences-là pour ce partage de savoir et ce partage de prise en charge?
Oui, le travail en fait au niveau de la prise de conscience de ces compétences, c'est déjà difficile à mener au niveau des urgences parce que c'est un travail, comme je l'ai dit, très innovant parce que dans le soin d'urgence, la compétence du patient et y compris l'acceptation de dire qu'un patient peut faire quelque chose, on en est très loin. On est dans l'immédiateté, on est dans l'action. Et qui dit l'action dit rarement la réflexion à l'instant T0, même si elle est en mesure d'être faite après. Je pense que oui, le travail devrait être fait en amont, et d'où l'intérêt de peut-être ce type de travail pour pouvoir souligner la place peut-être de l'éducation, y compris de l'éducation thérapeutique auprès des soignants au sein des services d'urgence. Et on en vient un petit peu à l'idée du consentement. En effet, si tout le monde dit que le consentement éclairé est difficile à mener dans la pratique de l'urgence, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas eu un travail d'amont qui a consisté à travailler la réflexion sur « on y vient ». Les lois, justement, y compris dans le domaine de la réanimation actuelle et du droit à la réanimation, le droit à la non-réanimation proposé par à la famille, aux patients, seront certainement des sources de réflexion.
Je me permets d'ajouter, dans cette situation précise de l'urgence, où on parle d'accord du patient à ce que le soignant puisse... aller solliciter ses compétences à lui, patient. Moi, je pense à l'enfant, je pense aux parents au moment de l'annonce d'un diagnostic, aussi une situation d'urgence. Je ne suis pas convaincue dans mon expérience que le patient ou les parents de patients, même les frères et sœurs, aient envie d'être acteurs. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont envie d'être pris en charge. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Occupez-vous de moi, je suis là. Notamment dans justement ce moment de l'annonce du diagnostic qui est une urgence, ils réalisent pas, ils sont sidérés, et au contraire c'est plutôt un appel, tirez-moi de mon vide. Je suis pas sûre que les patients soient à ce moment-là en compétence d'être acteurs, je sais pas si ça se dit.
Dans l'expérience que j'ai, je crois qu'il faut justement arriver à problématiser, ce sont toujours mes obsessions, n'est-ce pas, en niveau de réalité. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est la réalité de l'urgence biologique. Et cette réalité, de toute façon, l'urgentiste ne va pas demander le consentement éclairé, d'autant plus que très souvent d'ailleurs, les personnes sont en coma ou en tous les cas en situation de très grande précarité. Donc la première urgence, la première nécessité, c'est de régler le biologique de façon à ce qu'une personne, par exemple, ne décède pas. Ensuite, la question de la compétence... est une autre réalité, c'est une autre dimension de la personne. C'est-à-dire que là, la question qui se pose, c'est comment l'amélioration de compétences chez un patient atteint de maladie chronique va-t-elle éventuellement diminuer le risque d'accès aux urgences, etc. Et là, par contre, effectivement, la question du consentement éclairé du sujet, la question de la mise en place d'éducation thérapeutique a toute sa portée. Mais voyez que là, on n'est plus du tout dans la gestion de la biologie, de la médecine dans le champ classique, disons, de ses applications, mais dans une toute autre dimension. Et la confusion des deux, à nouveau, va beaucoup perturber de choses.
Il y avait une question ? Une là et une là.
Oui. Non, c'était pour prolonger le débat. À l'inverse, on pourrait se dire aussi... moi, c'est comme ça que j'ai entendu votre interpellation. Quand on est en le lien possible entre éducation thérapeutique et urgence, au-delà de ce que fait l'éducation thérapeutique avant pour préparer ces moments, c'est quand l'urgentiste saisirait ces petits instants où il peut se reposer sur des compétences réelles. Enfin, je pense par exemple à quelque chose d'assez simple, pas dans le cadre de la grande réanimation, mais dans ce qu'on a au tout venant en urgence, c'est qui est plus compétent qu'une maman pour assurer son enfant? Bon, donc tous ces moments où, par exemple, la laisser garder son enfant sur ses genoux, c'est bien reconnaître cette compétence-là qu'elle a, bien meilleure que moi qui effraie déjà le gamin. Donc, un travail intéressant, ce serait de repérer déjà dans la réalité, pour faire le lien avec la première intervention, sur ce qui marque déjà, ce qui signifie déjà la compétence, soit des parents, soit même des enfants. Le faire savoir, le faire connaître pour inciter du coup les soignants à être particulièrement attentifs à ça, même si je rejoins beaucoup l'intervention précédente qui dit qu'en général les parents ils attendent qu'on agisse, quoi, parce qu'ils sont effectivement dans cette tétanie, sûrement selon le degré d'urgence.
La dernière intervention.
Ma réflexion concerne la dernière intervention qui m'a beaucoup intéressée, parce que effectivement, en ce moment, je forme des équipes soignantes et des soignants à la construction des programmes selon tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, j'ai une crainte que je voudrais partager avec vous. Et c'est-à-dire que, effectivement, il y a un souci de structuration, de valorisation, d'évaluation. Mais j'ai l'impression aussi que les soignants puissent, d'une certaine façon, penser que tout ce qui ne rentre pas dans les cases n'existe pas. Tout ce qui est de l'ordre un peu de l'informel et du pas formalisable, parce que ça fait partie de la relation, c'est pas pris en compte et on l'oublie. Et on oublie quand même son importance. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça.
Alors moi je comprends bien votre questionnement et en même temps, puisque sur tous les sujets quasiment, c'est la réponse souvent des soignants. Dès qu'on demande de rentrer dans quelque chose de très structuré, en fait ils ont peur qu'on leur demande de perdre leur créativité. Au contraire, je crois que c'est un peu sur ce sujet qu'on n'arrive pas à mettre la T2A en psychiatrie, par exemple. Parce que ça voudrait dire que les actes qui ne sont pas des actes techniques ne sont pas des actes valorisables. Or, la relation, par exemple, c'est quelque chose de valorisable. Quand finalement on dit... C'est pour ça que moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'émane de la structure et de la discipline, parce que c'est pas la même chose en diabéto, en rhumato, je pense que le tronc doit être commun, c'est-à-dire de dire, pour exemple, des séquences individuelles, des séquences collectives, comment vous les concevez? Et c'est là que se joue la contractualisation, peut-être d'avoir un débat sur le je pense que les professionnels doivent maîtriser le contenu. Et doivent dire, par exemple, une séance collective ou individuelle, ben, on va prendre un temps relationnel, tel que vous décrivez, qui peut être initial ou autre, etc. Il faut le valoriser. Et je ne crois pas qu'il y aura une contestation sur le contenu. Par contre, c'est effectivement, si on dit, ben, nous, par rapport à des séquences que c'est 20 minutes, d'autres 15 minutes, je ne crois pas que nous discuterons. Je l'ai vu là sur les MIGAC. On ne discute pas. Par contre, souvent, on n'a pas les choses aussi précises que ça. Donc, du coup, arriveront en face d'autres qui détermineront le temps. Donc, je pense que les équipes peuvent garder ce côté créatif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne crois pas que ce sera un souci. Bien sûr, si après on va faire des moyennes nationales, faut pas rêver. Hein. C'est comme dans les groupes homogènes. Si un établissement dit, moi il me faut une heure, ou les autres disent 20 minutes, il y aura une moyenne de valorisation. Mais là, il y a un vrai débat de professionnels.
Alors, Rémi me dit qu'il y a une dernière question possible.
Oui. Jean-François Divernois, c'est une question, Madame Glohagen. D'abord, j'étais un peu surpris de votre présentation. De l'organisation de l'éducation thérapeutique dans les établissements de santé, dans un système un peu pyramidal qui partirait d'une structure primitive, on va dire, le service pour arriver vers des structures quand même beaucoup plus élaborées et sophistiquées, le pôle, l'établissement, etc. L'éducation thérapeutique est quand même très contextualisée. Éduquer un diabétique, éduquer un asthmatique, éduquer un parkinsonien, c'est pas exactement pareil, et chaque fois qu'on s'est essayé à faire des troncs communs avec des options, on s'est planté. Donc c'était normal que l'éducation thérapeutique parte des services. Et je me dis que s'il devait y avoir une coordination, ce qui apparaît souhaitable, nos voisins hollandais l'ont assez bien développé, il faudrait que ça tienne compte au fond que l'éducation thérapeutique va se faire de façon très naturelle, en continuité du soin et en continuité de la thérapeutique. C'est pour ça qu'elle est thérapeutique justement. Je craindrais que dans des schémas futurs un peu bureaucratiques, n'est-ce pas, on imagine des espèces d'éducation transversale qui mêleraient des conditions très différentes de patients, des pathologies très différentes, des problématiques très différentes aussi.
Alors, je vous remercie et je partage complètement ce que vous venez de dire, contrairement à peut-être à la perception que j'ai pu donner. Ce que j'ai dit, c'est dans l'historique que c'est parti des services. Finalement, la volonté très forte, très affirmée, elle est partie des disciplines et des pathologies qui ont défendu que dans la pathologie concernée, il y avait une phase indispensable d'éducation. C'est pour ça que j'ai repris un peu l'historique. Aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité que le contexte est un contexte beaucoup plus large et plus... Il faut le saisir. C'était ça mes propos. Hein. Par contre, ce discours, si vous voulez, je le partage et je dirais pas quotidiennement, mais très fréquemment avec les médecins. Et nous, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est mutualisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et alors, on va faire très basique et très pragmatique, comme vous avez dit tout à l'heure. Nous construisons un nouvel établissement sur le CHR de Metz-Thionville, sur le site de Metz. Et c'est très intéressant, à partir de l'architecture. Chaque grande discipline disait, il nous faut une salle d'éducation thérapeutique avec les moyens, pour faire des séances collectives, individuelles, etc. Et là, on parlait de structure, on parlait pas du contenu, on est d'accord? Et on leur a dit, et si on faisait un espace qui était bien pour tout le monde, qui était mutualisable et qui devenait un espace de réseau ville-hôpital et qui permettait justement de faire quelque chose de conséquent plutôt que finalement chaque service demandait une pièce en plus quoi ou deux pièces en plus. Et ça, ça les a intéressés. C'est-à-dire que mon questionnement, il est plutôt qu'est-ce qu'on peut mutualiser en logistique, par exemple, et qu'est-ce qui, au contraire, reste de la discipline et de la spécificité. Vous l'avez dit, diabéto, rhumato, c'est pas le même sujet, hein. C'est pas la même approche, c'est pas les mêmes séquences, c'est pas le même objectif. Je partage complètement votre analyse. Hein. C'est plus un questionnement de qu'est-ce qui est mutualisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, c'était ça mes propos, monsieur.
Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, mais si les autres orateurs veulent avoir le temps peut-être de parler, on va faire la pause. Et il peut y avoir un temps d'échange au café. Merci.